Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Bunia. Voici les titres de votre journal vespéral. Le Premier ministre suspend jusqu'à nouvel ordre la désignation et la nomination des membres du comité de gestion des quelques établissements de l'ESU, tels que décidés récemment par le ministre des tutelles. C'est à la suite des agitations constatées dans les milieux universitaires après la publication du dit arrêté. Une forte délégation des anciens seigneurs des guerres de l'Ituri en provenance de Kinshasa séjourne à Bunia. C'est pour sensibiliser les leaders des groupes armés à déposer les armes pour la restauration de la paix dans cette province. L'invité de ce journal est l'archevêque de l'église anglicane en RDC et au Congo-Brazzaville. Sa grâce, Zachary Massimango Katanda, nous parle du combat de Desmond Tutu, l'archevêque de l'église anglicane de l'Afrique du Sud, décédé dimanche dernier. Tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, Mgr Tacite Tshibangu Tshishiku n'est plus. Il est décédé ce mercredi aux cliniques universitaires de Kinshasa. L'information est livrée par des sources de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Né le 24 avril 1933 à Kipushi, il est ordonné prêtre en 1959 au grand séminaire de Moba. Licencié en théologie de l'université de Louvain-Niom en 1961, il est docteur en théologie à l'université catholique de Louvain en 1962. En 1965, il est nommé professeur à l'université Louvain-Niom. Prélat de sa sainteté le pape Paul VI et vice-recteur de l'université Louvain-Niom. Il devient évêque auxiliaire de Kinshasa en 1970, recteur de l'université Louvain-Niom de 67 à 1971. Il est recteur de l'université nationale du Zaïre de 71 à 1981 et depuis président du conseil d'administration des universités de l'ex-Zaïre. Il a aussi travaillé pendant longtemps comme évêque de Mbujimayi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Polydor Basunga sur la technique. Devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Le premier ministre suspend jusqu'à nouvel ordre la désignation et la nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire tels que décidés par le ministre de l'ESU dans son arrêté du 23 décembre dernier. Cette décision du Premier ministre est contenue dans un communiqué publié hier mardi et signé par son directeur de cabinet. Elle est prise, selon le communiqué, à la suite des agitations constatées dans les milieux universitaires après la publication du dit arrêté, mais aussi afin de permettre une dernière harmonisation des vues avec le ministre de l'ESU. En conséquence, conclut le communiqué, toute remise et reprise entre les membres sortants et entrants des comités de gestion concernés par le dit arrêté et reporté. Et puis, rentrée académique hypothétique à l'Université pédagogique nationale UPEN à Kinshasa, prévue pour le lundi 5 janvier 2022. Cette rentrée se fera sans les professeurs qui ont décidé d'entrer en grève sèche. Dans une interview accordée ce mercredi à Radio Okapi, le président de l'association des professeurs de l'UPEN explique que cette nouvelle grève, décidée à l'issue d'une assemblée générale lundi dernier, est motivée par plusieurs grèves. Il regrette également le fait que le budget 2022 alloué aux revenus des professeurs a été élaboré sans les impliquer. Professeur Emery Yobo et joint par Lech Walassa.
Le gouvernement n'a pas répondu à nos revendications. Nous avons trois points principaux pour l'activité des professeurs. Il y a les dossiers logement et la prise en charge des professeurs pour la santé. De ces trois dossiers, rien n'a eu comme réponse. Il faut que le gouvernement puisse réagir pour que les professeurs travaillent normalement.
Dans vos revendications, vous parlez souvent de la perte de pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez parcouru les budgets 2022 pour voir?
Le budget 2022, c'est notre ministère des tutelles qui pouvait nous les donner, mais le ministre a fait les choses de sa manière. Jusque-là, nous ne savons pas combien il a demandé pour un professeur. Ben, ce n'est pas un acquis. Les professeurs ont des enfants, les professeurs ont une famille, les professeurs ont d'autres choses à faire aussi.
Au Maïndombé, dans les territoires de Kwamout, les enseignants du secteur public de la sous-division de Kwamout 2, division provinciale de l'EPST Maïndombé 2, passent les festivités de fin d'année dans la galère à cause de l'impayement de 3 mois de salaire. Ils sont montés au créneau ce mercredi et sollicitent l'implication des autorités de tutelle afin qu'ils soient payés. Pour sa part, le député provincial David Bissaka, élu de ce territoire, plaide aussi en faveur de ses enseignants afin qu'ils soient payés et puissent passer ces fêtes comme il se doit. Le point avec Irène Boma.
À en croire le préfet de l'Institut Mubanzila, situé au village Etumanangwaka vers Ngandabangala et porte-parole des circonstances, tous les enseignants du secteur public de la sous-division de Kwamutu D, axe routier, n'ont pas encore reçu leur salaire du mois d'octobre dernier, de novembre et de décembre. Situation qui, selon Jacques Kawata, les empêche de pourvoir aux besoins de leur famille pour bien passer les festivités de fin d'année.
Nous n'aimerons pas moi impayés. Nous ne savons pas comment traiter. Nous sommes des responsables. Nous voici pendant la période des fêtes. On ne sait pas comment faut-il se toiler avec les enfants. Les enseignants ne se retrouvent pas. Où faut-il aller?
Préoccupé par la galère de ces enseignants pendant ces fêtes de Nouvel An, le député provincial David Bisaka, élu de Kwamutu, plaide en leur faveur.
Il y a de cela 100 jours, plus de 300 écoles. Les enseignants coupent vraiment dans la misère. Le plus terrible aujourd'hui. Mon plaidoyer, c'est demander aux autorités si on pouvait faire quelque chose enfin d'avant les 30, que ces enseignants soient payés, que ces enseignants-là fêtent aussi.
Notez qu'il n'y aura pas rentrée des classes en janvier si ces enseignants ne reçoivent pas ces 3 mois de salaire avant la fin de ces mois, a laissé entendre Jacques Kawata. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans la province de la Tshopo, les anciens travailleurs du complexe sucrier de l'Otokila ont manifesté hier devant le cabinet du gouverneur de province. Ils réclament le paiement de leurs indemnités de fin de carrière. Selon eux, la présidente du comité de liquidation avait promis de mettre fin à ce litige qui date depuis 8 ans à la fin de ce mois de décembre. Cependant, à 3 jours de la fin de cette échéance, rien ne se profile à l'horizon. Un reportage de Jacques Moukonkoli.
En manifestant devant le cabinet du gouverneur de province, les anciens travailleurs du complexe sucrier de l'Otokila voudraient maintenir la pression sur l'autorité provinciale afin qu'elle plaide leur cause auprès du comité national de liquidation de cette entreprise. Cette dernière avait déjà été rachetée par le gouvernement provincial depuis 8 ans. Roger Bosongo, leur représentant.
Le gouverneur doit nécessairement plaider ce cas et respecter ses engagements vis-à-vis du comité national de liquidation. C'est ces montants-là que nous cherchons. Une fois reçus, il remet les montants auprès du comité de liquidation et ces derniers maintenant viennent nous payer. C'est simple.
La créance du gouvernement provincial auprès du comité de liquidation est de 2 millions de dollars, reconnaît les gouverneurs de province intérimaires. Il faut en outre procéder à la vente des 2 immeubles de cette entreprise avant de procéder au paiement des indemnités aux seuls anciens employés détenant un contrat de travail. Cependant, souligne Maurice Abibou Sakapela, les conditions fixées par les liquidateurs pour cette vente ne sont pas encore réunies. S'il ne vous a pas payé jusque-là, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé de preneur. On continue à chercher des clients. On ne les a pas encore trouvés parce que le prix proposé pour une maison comme celle qui avait pris feu est de 500 000 dollars. Les commissionnaires ont été déjà intéressés. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En Ituri, une forte délégation composée des anciens seigneurs de guerre de cette province et de certains acteurs politiques est arrivée hier mardi à Bunia en provenance de Kinshasa. Cette délégation est dépêchée par le chef de l'État pour sensibiliser les leaders des groupes armés à déposer les armes pour la restauration de la paix. Certains fils de l'Ituri saluent cette initiative car l'option militaire a démontré ses limites. D'autres pensent que le gouvernement doit combiner cette démarche avec le processus de désarmement et démobilisation communautaire pour sa réussite. Des détails avec Isaac Remouyopé.
Cette délégation dénommée Task Force est conduite par Thomas Lubanga, ancien chef de la milice Union des Patriotes Congolais IPC, qui est devenu parti politique. Cette structure est composée d'une 21 de membres, dont les anciens seigneurs de guerre Floribert Ndjabou et Germain Katanga et certains acteurs politiques originaires de l'Ituri. L'objectif de leur mission est principalement de sensibiliser les leaders des différents groupes armés, dont la CODECO et la Force Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC, à adhérer au processus de paix. Cette délégation a été accueilli avec faste par des milliers d'habitants venus de différentes localités en territoire d'Irumu et de Djougou. La majorité de la population salue cette initiative du chef de l'État pour la recherche de la paix en Ituri car l'option militaire à elle seule ne suffit pas pour pacifier l'Ituri. Selon ses habitants, le gouvernement doit au même moment lancer le programme de désarmement et de mobilisation communautaire pour permettre le cantonnement des miliciens qui acceptent de déposer les armes. Sans cela, cette démarche va aboutir à un échec. D'autres par contre restent sceptiques car la mission de la première délégation des anciens seigneurs de guerre envoyée toujours par le président de la République n'a pas produit des résultats escomptés. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nord Kivu, lancement officiel ce mercredi des activités de vaccination contre le coronavirus à Kamango, chef-lieu de la chefferie de Watalinga, à plus ou moins 80 km au nord-est de la ville de Beni. Le coordonnateur des activités de la vaccination dans cette zone salue la volonté manifestée de la population qui s'est présentée tôt le matin au site de vaccination. Marc Marofimbo pour les détails.
Trois sites accueillent la population de la zone de santé de Kamango pour cette activité de vaccination contre la COVID-19. Il s'agit de l'hôpital général de référence de Kamango, ainsi que le centre de santé d'Njiapanda et celui de Luanoli. Le président du comité local de santé de Kamango salue la volonté de la population manifestée ce matin aux trois sites de vaccination. Ceci après une longue période de sensibilisation que cette structure a menée dans les agglomérations de cette zone, afin que la population se fasse vacciner massivement pour se protéger contre cette pandémie. Manjobe Alunja.
La population était sensibilisée puisque le lancement était le mois passé à Nobili, là où on a lancé officiellement les activités de vaccination contre le COVID-19. Alors, c'est le tour maintenant des centres de santé Kamango, y compris l'hôpital général de Kamango. En tout cas, la population attend cette activité puisque lorsqu'on avait commencé à Nobili, la quantité était minime, donc la population était dans le regret de voir qu'on a programmé l'activité de vaccination, mais les doses, donc la quantité était très basse.
Pour sa part, le médecin chef de zone de Kamango appelle la population à se faire vacciner massivement pour se protéger contre cette maladie. Le docteur Josué Ndungo Kichamoul indique que les doses de vaccins sont suffisantes afin de servir la population sans rupture dans tous les trois sites de vaccination. Beni, Marc Marofimbo, Radio Cap.
Au Kasaï Oriental, près de 930 000 enfants de 6 à 59 mois de 19 zones de santé que compte la province reçoivent depuis lundi quelques doses de supplémentation en vitamine A. Parmi eux, près de 830 000 enfants de 12 mois à 5 ans sont soumis au déparasitage au mebendazole. D'après le chef de division provinciale de la santé, cette campagne de vaccination qui prend fin vendredi a pour but de renforcer le système immunitaire et de combattre les vers intestinaux qui empêchent la bonne croissance des enfants. Docteur Bonheur Titekou affirme que tous les intrants sont disponibles et la stratégie reste la porte à porte. Il a été joint par Esther Ndalafina.
Il s'agit de la supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 à 59 mois et aussi du parasitage en albendazole pour les enfants de 12 à 13 ans. Les enfants de 6 à 11 ans, c'est 109 930 enfants qui vont recevoir la vitamine A de 100 000 unités. 818 970 enfants qui vont recevoir la vitamine A de 200 000 unités plus l'albendazole. Donc, ce qui fait que nous attendons un total de 928 000 enfants, 908, qui vont recevoir la vitamine A et aussi l'albendazole. La stratégie, elle est porte à porte, donc c'est à domicile. Et les parents puissent à la maison avec leurs enfants, puissent bénéficier de ces intrants, qui vont aider leurs enfants à renforcer leur système immunitaire et aussi à tuer tous les vers intestinaux. Et ces enfants-là, cela pourrait être qu'ils puissent avoir une bonne croissance.
Le député national Adolphe Loumanou Bouanansefou continue son combat politique au sein de son parti politique, le PPRD, membre de l'opposition. L'élu de Cabinda l'a déclaré dans une conférence de presse tenue hier mardi à Cabinda après le meeting du chef de l'État. Adolphe Loumanou a justifié sa présence à Cabinda en tant que représentant des intérêts de sa base. En cette qualité, dit-il, il a le devoir de présenter les desiderata de la population de la province de Lomami au chef de l'État. Et cela ne veut nullement dire qu'il a quitté le PPRD. On écoute le professeur Adolphe Loumanou dans ses propos recueillis par Richard Junior Kamunga.
Je me suis déplacé de Kinshasa à Cabinda, qui est notre fief électoral. Comme vous avez entendu le président, il a dit qu'il a été très bien accueilli à Cabinda, même par les partis de l'opposition. Et le président a parlé de la coalition FCC-CACH qui n'est pas allée jusqu'au bout. Et nous, comme représentants des intérêts de notre peuple, de nos bases électorales, nous ne pouvons pas ne pas être là pour que nous transmettions au chef de l'État les aspirations et les attentes de nos bases respectives. Le président de la République n'a pas créé un nouveau parti politique. Le président de la République n'a pas créé une nouvelle plateforme politique. Je ne connais pas la charte de l'Union sacrée, personnellement. Il a une vision sur l'intégrité du territoire national, il vous en a parlé. Si vous ne le soutenez pas, c'est qu'à la fois vous êtes contre les aspirations et les attentes de votre peuple. Voilà pourquoi nous sommes là.
Actualité internationale.
Une délégation tchadienne conduite par le ministre de la Défense séjourne à Bangui en Centrafrique pour évoquer la réouverture des frontières. Cette visite pourrait débloquer une situation qui dure depuis plus de 7 ans. Il s'agit de la fermeture de la frontière entre le Tchad et la Centrafrique depuis 2014. Le sujet a été au centre des discussions hier mardi à Bangui entre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et cette délégation tchadienne. Et puis assise nationale de la refondation au Mali, le pays bientôt sera fixé sur l'allongement de la transition. Organisée par les autorités de la transition, ces assises touchent à leur fin. Une plénière doit se tenir ce mercredi. Futures réformes institutionnelles, chronogramme pour les prochaines élections présidentielles et législatives. Les recommandations issues de cette concertation doivent être présentées demain jeudi pour mettre fin à la période de transition née du coup d'état militaire d'août 2020.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'archevêque de l'église anglicane en RDC au Congo-Brazzaville. Sa grâce Zachary Massimango nous parle du combat de Ousmane Tutu, l'archevêque de l'église anglicane de l'Afrique du Sud décédé dimanche dernier. Sa grâce Zachary Massimango Katanda s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monseigneur Zachary Massimango Katanda, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Vous êtes archevêque de l'église anglicane de la RDC et du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, vous venez de perdre l'un de vous, l'archevêque Desmond Tutu de l'Afrique du Sud. On peut savoir qu'est-ce que cet homme représentait pour vous?
Merci pour cette question. Nous avons reçu cette nouvelle avec tristesse. Le décès de l'archevêque Desmond Tutu, qui fut archevêque de l'Afrique du Sud, qui est décédé en Afrique du Sud, à Cape Town, à l'âge de 90 ans, puisque cet homme nous lègue un modèle à suivre. Cet homme était d'abord un homme appelé par Dieu dans son pays pendant une période très difficile en Afrique du Sud où il y avait l'apartheid, des divisions entre le peuple. Mais Desmond Tutu a joué son rôle prophétique en appelant les gens à l'unité et aussi il a défendu les valeurs chrétiennes qui sont la justice, la vérité, la réconciliation et aussi le pardon. Et il ne cessait de le dire que nous sommes unis par le sang et nous sommes unis puisque nous avons été créés par l'image de Dieu. Pour lui, il ne voulait pas qu'il y ait le blanc, le noir ou les Indiens en Afrique du Sud, mais tous le même peuple, le Ubuntu. C'était une valeur qu'il défendait. Desmond Tutu aussi a reconnu à tout homme l'image de Dieu. Il a même appelé son peuple le peuple arc-en-ciel, c'est-à-dire en anglais Rainbow People of God, c'est-à-dire quelles que soient les couleurs. Il a dit au peuple sud-africain que nous sommes un seul peuple créé à l'image de Dieu et nous devons nous respecter les uns les autres. Et c'est cette lutte qu'il a menée jusqu'à la fin de sa vie. Il a aussi reçu le prix Nobel de la paix. Il est le lauréat du prix Nobel de la paix. Et cet homme aussi a beaucoup aidé l'église en Afrique. Il a été élu, je me rappelle, en 1987, président de la conférence de toutes les églises d'Afrique, en abrégé CETA, qui est basée à Nairobi, où même un bâtiment est érigé à son nom. Donc, nous n'oublions jamais Desmond Tutu ici au Congo et en Afrique.
Vous parlez d'un modèle, c'est un homme qui défendait beaucoup les droits de l'homme. Est-ce que ces valeurs-là peuvent vous caractériser aussi?
Oui, moi-même, j'ai été formé par lui en Afrique du Sud. Vous savez, chez les Anglicans, quand on devient évêque, on passe par une formation, puisqu'il n'y a pas une école qui forme les évêques. J'ai eu la chance et le privilège d'aller en Afrique du Sud en 1997 où Desmond Tutu est venu nous adresser à Sir le ministère épiscopal et il ne cessait de nous dire que le ministère épiscopal c'est un ministère de service à la nation et nous devons travailler pour la transformation de nos nations. Et il a aussi parlé beaucoup sur les valeurs des droits de l'homme. Et au Congo, nous voulons vous dire clairement que nous suivons ce modèle et surtout pendant cette période où les confessions religieuses au Congo traversent une crise. Voilà le modèle à suivre pour les confessions religieuses, le modèle de Desmond Tutu.
Il est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le ressembler dans ces pays encore?
Oui, il y a beaucoup de Desmond Tutu qui sont inconnus parce qu'ils sont là pour lutter pour la justice et aussi pour lutter aussi pour la réconciliation. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Beni, à Ituri. Il y a des Desmond Tutu qui sont là-bas et qui ne cessent jour et nuit de réconcilier les peuples dédiés devant cette situation de crise créée par les ennemis de la paix. Voilà, il y a toujours des Desmond Tutu au sein de nos communautés respectives.
Face à cette mort de Desmond Tutu, l'un des archevêques de l'église anglicane, quel message que vous avez à donner à tous les fidèles de l'église anglicane?
Le message que j'ai adressé à tous les fidèles de l'église anglicane, d'accompagner d'abord les cérémonies funèbres qui sont organisées en Afrique du Sud jusqu'à l'enterrement qui est annoncé au 1er janvier 2022 à 10h à la cathédrale Saint-Georges de Cape Town en Afrique du Sud. Aussi, nous devons prier pour notre pays, prier aussi pour les dirigeants de ces pays pour qu'ils puissent suivre ce modèle-là que vient de nous léguer cet homme de Dieu en cherchant toujours à défendre les valeurs chrétiennes, les valeurs de paix, les valeurs de justice partout où nous nous trouvons dans notre pays.
Monseigneur Zachary Massimango Katanda, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, Madame Florence, c'est moi qui vous remercie aussi.
Et c'était notre invité, l'archevêque de l'église anglicane en RDC et au Congo-Brazzaville, sa grâce Zachary Massimango Katanda, s'entretenait avec Florence Kizalunga. Fin de ce journal, merci pour votre fidélité à Radio Okapi.